Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de That Special Moment Podcast afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission une figure de l'espionnage qui n'a rien à cacher. Et comme tout le monde le sait, quand on n'a rien à cacher, on le montre. Philippe Chevalier est le cofondateur de l'agence de détectives privés corporatifs Sarks INC, travaillant sans frontières pour les milieux d'affaires. Et qui plus est, un passionné d'histoire. Philippe Chevalier, bienvenue dans That Special Moment Podcast.
Merci beaucoup Armand pour ton accueil puis ta présentation qui m'a beaucoup impressionné aussi, mais merci encore.
Avec plaisir. Je viens rapidement vous présenter. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes qui est Philippe Chevalier.
Oui, moi je pense qu'on ne se définit pas seulement par sa profession et je suis très content que tu aies mentionné l'histoire au début parce que ce qui m'a amené à ma profession et à l'ensemble de ma carrière, c'est ma vraie passion pour l'histoire médiévale, l'histoire antique, l'histoire du Moyen-Orient, donc ça fait vraiment partie de moi. Alors si je dois me définir, c'est un passionné d'histoire qui, forcément, par ricochet, est devenu intéressé à l'évolution du monde, de l'économie, de l'entreprise et du facteur humain.
Tout un programme, si j'ai bien compris.
Ben, je vis ça au quotidien, donc effectivement, oui.
Alors, parlez-moi brièvement de la raison qui vous a poussé à devenir espion. Ça, c'est très intéressant.
Parfait. Alors, je vais évidemment, puis je pense que tu t'en doutes, je vais corriger le mot espion tout de suite parce qu'il me met mal à l'aise.
D'accord.
L'espionnage est un délit criminel, c'est partout pareil dans le monde et j'ai un peu de pudeur à utiliser le mot espion, même si je comprends très bien pourquoi vous l'utilisez. Je le fais aussi quand j'ai besoin d'expliquer ce que j'ai pu faire dans ma vie. Pour moi, c'est du renseignement. Le renseignement, c'est documenter des situations. C'est une fonction de travail préventive, nécessaire, qui d'ailleurs permet d'éviter des guerres et des conflits. Mais pour répondre à la question sur ma motivation, je reviens à l'histoire. Passionné d'histoire, quand j'étais militaire dans les années 80, donc de 83, ça remonte au siècle d'avant, hein, de 83 à 90, quand j'étais militaire, j'étais pas officier, j'étais militaire du rang, donc caporal-chef, puis in extremis, admissible sous-officier. J'étais un des rares qui avait donc un diplôme universitaire en histoire. Ça a été repéré. En plus, moi, c'était l'histoire du Moyen-Orient. Et c'est ce qui m'a permis de basculer dans le monde du renseignement à l'aube des années 90, au moment où le monde changeait. Hein. Avant, c'était le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Et puis, tout a changé en 90-91. Alors, c'est une question de chance et d'opportunité. Mais je crois que la chance, c'est savoir saisir l'opportunité et bien s'y préparer. Il n'y a pas une chance absolue qui existe dans la vie. C'est un concours de circonstances que l'on organise quand même.
C'est très bien défini, en tout cas. En préparant cette émission, on a discuté, et on va parler d'espionnage en affaires maintenant. La réalité dépasse souvent la fiction.
Oui.
Comment ça se passe? C'est-à-dire que tout ce que l'on voit dans les séries à grand succès... Finalement, c'est du petit lait comparé à la réalité.
Oui, là, on peut utiliser le mot espionnage à bon escient, parce que moi, j'en fais pas, évidemment, mais je m'occupe du contre-espionnage industriel, de la prévention et de la riposte lorsque cela arrive. Quand vous dites « la réalité dépasse la fiction », c'est une phrase qu'on a prononcée en préparation pour une raison presque scientifique. La réalité, pour exister, elle n'a besoin de rien. La réalité, c'est la réalité. Elle existe par elle-même. La fiction, en revanche, pour attirer notre attention, a besoin d'éléments de réalité. C'est vrai dans les séries télévisées, c'est vrai dans les films dits d'espionnage, pour que les gens y adhèrent et s'y intéressent, il faut qu'il y ait quelques éléments de réalité. C'est pour ça que la réalité dépassera toujours la fiction. Puis pour revenir sur le terrain, en entreprise, moi ce que je vis, puis ce que j'explique à mes clients, puisque mes clients vivent, c'est qu'à chaque jour, ça fait partie, puis là c'est important à le souligner, hein, ça fait partie malheureusement de la vie normale du monde des affaires que des entreprises s'espionnent, même sans avoir conscience du mot, vont soudoyer des employés, approcher des employés, aller chercher des secrets d'affaires pour s'en servir. Ça fait partie du fonctionnement quand je dis le mot normal, ce n'est pas que je l'approuve, évidemment, mais ça fait partie du cadre habituel du monde des affaires. Donnez un exemple, là, quelque chose auquel on ne pense pas. L'agriculture, ce n'est pas forcément de la haute technologie, ça l'est parfois, mais pas toujours. Et quelque chose d'aussi simple que j'ai appris récemment, c'est que des champignons qu'on va chercher dans les forêts, il y a une entreprise agroalimentaire qui a découvert un moyen de le faire pousser sous serre. Le marché devient un marché d'une centaine de millions de dollars et le laboratoire, il est protégé par des gardes armés. Il y a des précautions importantes qui sont prises contre l'espionnage industriel parce que dans chaque domaine d'industrie, partout où il y a de l'innovation, partout où il y a des secrets, il y a nécessairement des risques d'espionnage industriel qui ne sont pas toujours du des cyberattaques ou du piratage. Ça peut être aussi très humain, de l'approche de personnes pour les compromettre, pour exercer des pressions. Alors, c'est le fameux sigle MICE, M-I-C-E, pour monnaie, idéologie, contrainte ou contrôle. Et ce sont les quatre leviers de manipulation des personnes et ça fait partie du monde des affaires en finance, en innovation, en industrie et dans la plupart des domaines.
Rien que ça, ça ferait l'objet d'une émission, n'est-ce pas?
Ah ben, on pourrait effectivement s'en parler parce que voilà. C'est une des difficultés que j'ai dans les podcasts, c'est que mes clients, bon, évidemment, ils ne souhaitent pas nécessairement qu'on expose tout. D'ailleurs, quand je publie sur LinkedIn, j'écris des articles qui sont des comptes rendus de mes enquêtes, mais ce que je fais, c'est que je vais aller chercher 2-3 enquêtes récentes et je vais les fondre en une seule pour conserver la confidentialité. Mais le fait que récemment, là, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, c'était une tentative de recrutement dans le domaine de l'intelligence artificielle auprès de développeurs. Et ça fait partie, oui, des approches qui ont lieu quotidiennement en Europe, en Amérique du Nord, évidemment en Suisse, puisque la Suisse est le cœur de l'Europe. Géographiquement, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu universitaire, c'est un lieu d'innovation, évidemment. Donc, c'est aussi un lieu qui, c'est même une tradition, même dans les romans, Genève, nid d'espions, on entend ça souvent, parce que la ville a une vocation de rencontre, une vocation internationale, une vocation onusienne, une vocation d'études universitaires. Donc, c'est un lieu où se déroule pas mal d'affaires.
Très bien. Expliquez-moi la phrase suivante. Vous m'avez dit, quand ce n'est pas moral, c'est bon pour le moral.
Oui, merci de me rappeler ce proverbe que j'ai appris lors de ma formation à la DGS. Évidemment, c'est à prendre de manière humoristique au second degré, mais c'est très puissant comme proverbe. Ce que ça veut dire, c'est que la vraie vie n'est pas basée sur l'éthique. L'éthique, il faut se la construire au fur et à mesure que l'on progresse dans la vie. L'éthique est une nécessité presque de survie. Parce que quand on parle d'espionnage étatique ou d'espionnage industriel, que ce soit moi qui les combats ou que ce soit les espions, tous les deux, on évolue dans un monde où il n'y a pas de repères et de cadre moral. Et pour pouvoir travailler, produire et s'en sortir, il faut avoir un cadre moral, il faut se contraindre à se le bâtir. Alors la phrase « quand c'est pas moral, c'est bon pour le moral » est provocatrice, elle est humoristique, elle est intéressante à utiliser, mais ce qu'elle signifie un peu en relief, en négatif, comme les vieilles photos d'autrefois qui avaient du positif et du négatif, c'est qu'il est nécessaire en permanence de développer ses valeurs morales pour faire face à toutes les situations.
Très bien. Maintenant, est-ce que c'est Philippe qui a choisi le renseignement ou c'est le renseignement qui a choisi Philippe?
Alors, c'est forcément les deux. Le renseignement, comme n'importe quel autre emploi, comme n'importe quel autre employeur public ou privé, ne va pas embaucher quelqu'un sous la contrainte ou sous influence. Cela ferait un mauvais employé non motivé. Et à l'inverse, je ne peux pas frapper à la porte d'un service de renseignement en disant « prenez-moi s'il vous plaît, je suis bon ». Donc, c'est forcément comme dans tout emploi, une concordance d'intérêts, de passions et de compétences. Donc, c'est un choix réciproque. D'ailleurs, à titre anecdotique, Armand, je me souviens avoir échoué ma première entrevue à la DGSE parce que j'avais pas fait preuve d'assez de détermination à la fin de l'entrevue, notamment quand on m'a demandé « Donc, et maintenant, vous en pensez quoi de votre avenir ici ?» J'ai répondu « J'aimerais ça contribuer. » Je me souviens que la personne en face m'a dit « Non, non, ici, il n'y a pas de « J'aimerais ça contribuer. » Allez manger et revenez dans 30 minutes avec une bonne réponse. » Je suis revenu et j'ai dit « Je veux contribuer. » Puis là, ils m'ont dit « Bon, on peut se parler.
» Très bien. Donc, c'est les ressources humaines qui vous ont dit « Allez. » Un peu comme à l'école, un peu excité, va faire le tour de la règle du préau, oui. Revient après. Hein? C'est ça?
C'est ça. C'était exactement la même chose. Mais j'avais réalisé mon erreur. En mm-hmm. même temps, le fait qu'on me demande de revenir et de dire le fond de ma pensée 30 minutes après montrait que je n'avais pas totalement échoué non plus. Mais ça illustre très bien le fait que, quelle que soit la profession, c'est forcément, nécessairement un choix réciproque.
Autre chose qui m'a, je ne vais pas dire qui m'a frappé, mais qui a retenu toute mon attention, c'est vous avez dit, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le sont.
Oui, ben, je fonctionne beaucoup par proverbe, Armand, vous l'avez remarqué, puis j'en ai toute une liste. Alors, celui-ci, il est fondamental dans mon métier actuel d'enquêteur privé, de détective privé, quand on fait des entrevues ou des interrogatoires dans le cadre de, justement, de déloyauté commise en entreprise. On rencontre des employés qui auraient pu peut-être commettre des actes déloyaux. Alors, précisons les mots. Une entrevue, c'est quand j'ai pas l'information puis que je vais la chercher. Tandis qu'un interrogatoire, c'est pas menotter les mains dans le dos, évidemment. C'est simplement que je n'ai pas l'information, mais que j'ai quand même des indices et que je vais aller vérifier et valider. Alors, pour revenir à ce proverbe-là, ben, il n'est pas de moi. Il est de l'écrivain Oscar Wilde, mais il est beaucoup utilisé, enfin, j'espère, dans le domaine des enquêtes. Je peux m'autoriser toutes les questions. Je ne commets jamais d'indiscrétion, Armand, quand j'interroge quelqu'un. J'ai le droit de poser toutes les questions que je veux, comme n'importe quel citoyen. La responsabilité de la réponse incombe à la personne qui est en face de moi, qui va me dire ce qu'elle voudra bien me dire. Donc, je n'ai aucune gêne, aucun complexe à poser toutes les questions qui me sont nécessaires. Ça marche dans les deux sens. Dans ma vie d'entrepreneur, quand, par exemple, là, dans le podcast d'aujourd'hui, Armand, vous me posez des questions, je suis toujours en contrôle de ce que je vais dire ou ne pas dire. C'est ma responsabilité parce que, Armand, comme journaliste, vous ne serez jamais indiscret tant que vous posez des questions. Si un jour quelqu'un vous dit « Ah, c'était indiscret comme question », répondez-lui « C'est faux ». C'est la réponse que vous m'avez faite de votre propre chef, de votre propre liberté de conscience, de votre propre choix, qui a pu être indiscrète. C'est le sens du proverbe.
Ah bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre période dans le renseignement. Et j'aimerais savoir, parce que je pense que vous avez eu des situations où il a fallu être maître de soi-même, il a fallu être maître de sa peur. Et justement, par rapport à la peur, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite?
Je ne m'attendais pas à la deuxième partie de la question. Merci Armand, c'est vraiment intéressant comme podcast. On dit d'ailleurs certains au début. La peur est un outil de travail. Que ce soit un militaire, un policier, un pompier, un urgentiste, un agent de renseignement, toute profession qui met face à des situations difficiles doit avoir peur, doit accepter d'avoir peur, doit vivre avec la peur et doit la domestiquer. Alors, vous avez utilisé le mot « maîtriser », c'est même un niveau art martial, mais moi, j'utilise le mot « domestiquer ». La peur est utile et c'est vrai aussi en affaires. Il faut rester responsable, conscient des dangers et des menaces. Celui qui n'a pas peur, il est irresponsable et donc incompétent. Ceci étant dit, domestiquer la peur, ça veut dire vivre avec, la contrôler, s'en servir et l'utiliser pour rester alerte, à l'affût et conscient de notre environnement. Au moment où je dis conscient de l'environnement, j'ai en tête des situations bien précises au Moyen-Orient où, oui, il fallait à chaque seconde être conscient de ce qui se passait autour de moi. Alors, c'est une forme de vivre avec la peur, la contrôler, la maîtriser, la domestiquer. La peur de l'échec, ben, il ne faut pas fonctionner avec ça. En fait, Je sais que c'est un peu ordinaire de dire l'échec n'est pas une option, mais dans ce cas précis, c'est vrai, hein? C'est une nécessité parce que chaque acte a une conséquence, c'est la première leçon de la vie. Donc, le moment où ça devient extrêmement grave, c'est lorsqu'on se dit « comment je vais faire pour y arriver ?» Si jamais cette phrase vient dans la tête, c'est que c'est très mal parti. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas concentré sur l'échec, j'ai pas de raison d'avoir peur de la réussite non plus. Je dois faire ce que j'ai à faire, anticiper les situations. Et pour revenir à mon travail actuel d'enquêteur privé en entreprise, il y a une autre forme de peur que je dois contrôler et maîtriser, c'est le cadre légal, je ne dois pas en sortir. Hein. Mm-hmm. On disait au début de l'entrevue, quand ce n'est pas moral, c'est bon pour le moral. Ça, c'était vrai à l'époque, anciennement, évidemment. Mais en tant qu'enquêteur privé, travaillant en Amérique du Nord ou en Europe, je dois respecter un cadre légal. Ça fait partie du jeu pour que mes dossiers soient admissibles devant les autorités, en tribunal, en négociation ou en cours. Et moi, je suis toujours donc très précautionneux, très alerte sur le fait de respecter les enjeux légaux qui sont toujours les mêmes. Respecter l'expectative de vie privée, ne pas faire de tort à la réputation et travailler seulement sur documenter les faits.
Très bien. Est-ce que, vous m'avez dit également, l'histoire éclaire et décrypte beaucoup de choses en affaires. Est-ce que vous avez des exemples, s'il vous plaît?
Oui. Écoutez, depuis quelques semaines, quand je lis sur LinkedIn un torrent de publications bien pensantes, bienveillantes, qui appellent à la vertu tous azimuts, j'ai des gros doutes et je vais faire le lien avec l'histoire tout de suite. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le respect des lois, le respect de la conformité a amené certains pays, comme mon pays de naissance, la France, à manquer un petit peu de colonne, de punch et de résistance, pour parler clairement, et collaborer pas mal plus qu'il n'aurait dû. Donc moi, je pense qu'il y a une leçon historique importante qui est que là, puisque je vais vous dire, va peut-être vous surprendre, mais vous allez comprendre où je veux en venir, la conformité légale absolue, la conformité pour la conformité, c'est ce qui a amené, dans plusieurs circonstances, je pense précisément à la Deuxième Guerre mondiale, à une forme de collaboration un peu aveugle et certainement regrettable. Donc, je pense que les événements historiques nous apprennent à rester éveillés et alertes et être capables parfois de prendre l'initiative et de résister. Et c'est un exemple très clair pour moi lorsque je pense à ce conflit que mes grands-parents ont connu, puis mes parents enfants aussi, quand ils m'en parlaient. Moi, depuis toujours, j'ai remarqué, et j'en tire exemple aujourd'hui, que considérer que la loi, c'est la loi, puis qu'elle doit être suivie parce que c'est la loi, ben, ça amène à ne pas comprendre quelle loi on suit. Hein, les gouvernements collaborateurs en Europe, là où l'Allemagne occupait, les citoyens ont suivi la loi pour la loi. Ça servit un petit peu d'excuse à, je trouve, beaucoup trop de collaboration. Donc, c'est un exemple qui me tient à cœur. Un autre qui me vient à l'instant même, c'est lorsque des officiers allemands du sinistre corps des SS, certains d'entre eux s'étaient opposés au camp de concentration parce que ce n'était pas légal. Mais moi, je trouve ça très choquant de s'y opposer seulement pour cette raison-là, évidemment, alors que ces gens étaient quand même antisémites. Alors, il y a toute cette réflexion historique autour de notre rapport à la loi. Je pense qu'il faut davantage rester éveillé, conscient et avoir son libre arbitre.
Pour résumer ce que vous venez de dire, justement, vous parliez des réseaux sociaux et j'ai vu justement une personne poster en disant que les personnes qui ont sauvé Anne Frank étaient hors la loi et ceux qui l'ont tué suivaient la loi.
J'ai rien à ajouter, c'est exactement le fond de ma pensée, magnifiquement résumé.
Voilà. Alors, maintenant, autre chose qui, pour moi, a éveillé ma curiosité, c'est que vous m'avez dit « je ne partage pas mes objectifs personnels ». Alors, quelle est la raison, s'il vous plaît?
Ah, ben, c'est excellent comme question. Je vais donc utiliser immédiatement le proverbe précédemment cité. Donc, à savoir, ce ne sont pas les questions qui sont discrètes, mais ce sont les
Les réponses.
réponses. Je vais m'en servir avec brio là à l'instant même. C'est dans ma nature, c'est dans ma profession. Tout ce qui est personnel, je ne le communique que si c'est pertinent dans l'exercice de mon travail public. Je suis conscient. Puis ça, regardez, c'est intéressant, garder en mémoire là. On publie tout sur nous-mêmes, sur tous les réseaux sociaux. On donne énormément d'informations à tout le monde sur notre vie privée, nos enfants, nos familles, nos voyages, nos véhicules, nos lieux de vie, nos loisirs, nos goûts, etc. Toutes ces informations-là rendues publiques. Puis je le sais parce que moi, comme enquêteur, je m'en sers. Puis je collecte l'information sur beaucoup de monde dans le cadre de mes enquêtes. C'est pas intrusif, c'est public. Et je trouve qu'on se fait énormément de tort en étant trop surexposé, voire exhibitionniste. J'utilise le mot exprès là pour provoquer un peu, mais vous comprenez le fond de ma pensée à nouveau.
Bien sûr.
Je pense que c'est important de ramener ça à des cercles fermés et non pas sur des publications et réseaux sociaux, sur LinkedIn ou ailleurs. Puis je vais vous donner, Armand, un exemple très précis. Les fameuses fraudes aux grands-parents, les fraudes au patron, les situations de chantage, etc. Pour pouvoir le faire, ce n'est pas de la technologie, c'est de la collecte d'informations précises sur quelqu'un pour pouvoir exercer une pression ou une manipulation sur ses proches ou sur sa famille. Et dans le cas précis de la fraude aux grands-parents, donc ça ne concerne pas l'entreprise, c'est la sphère du privé. Mais quand quelqu'un dit qu'il est en vacances au Mexique, qu'hier il était à tel endroit, demain il sera à tel endroit, qu'il a tel véhicule, qu'il prend des photos, qu'il montre ce qu'il mange, évidemment que quelqu'un peut collecter tout ça, appeler ses parents, se faire passer, ce n'est pas compliqué pour ce touriste-là, et dire « je suis rendu à tel endroit, la police m'a arrêté pour un problème, peux-tu virer 10 000 dollars demain matin ?» Et il va être crédible, parce que le fraudeur a toute la biographie à la minute près de sa cible et s'en sert pour être crédible. Donc, par rapport à mon métier, pour ma propre crédibilité, puis peut-être, je l'avoue, par mon propre caractère, je partage pas beaucoup de choses de la vie personnelle.
Très bien. Donc, pour résumer une fois de plus, comme disait, je crois que c'était Anne Roumanoff qui avait dit ça, vous avez le secret du culte et le culte du secret.
Ah ben, Armand, je crois que tous les deux, on va pouvoir s'échanger des dizaines de proverbes utiles. On partage le même intérêt pour les proverbes.
On fera un podcast proverbe.
Oui. Ah, mais c'est une excellente idée parce que là, je suis en train d'y penser justement. Tout ce que j'ai appris dans la vie, que ce soit à l'armée, je vous en donne un de l'armée, hein, faire et défaire, ça s'appelle travailler. Je me souviens à l'armée quand je ne suis pas un grand sportif, donc j'étais un peu parmi les moins bons dans certaines activités comme le parcours d'obstacles. Je suis quand même sorti de la fosse en béton de peine et de misère et mon sous-officier me regarde, m'engueule pour me faire sortir. Et à la fin, il me dit, Chevalier, savez-vous pourquoi vous êtes sorti de la fosse? Non, sergent, parce que je ne vous ai pas donné le choix. Le problème de la vie, c'est quand on a le choix. Quand on n'a pas le choix, tout devient facile.
Méditer donc.
À méditer, oui,
Voilà.
effectivement. Oui.
Une autre chose qui m'a également interpellé, c'est que vous m'avez dit, vous avez vécu comme un échec le fait d'avoir été salarié dans la fonction publique et que ça a été un tremplin vers votre succès.
Oui.
Est-ce que vous pouvez étayer ceci?
Oui, je peux étayer et en même temps que j'étaye, je suis à nouveau en alerte et pour dire ce qui doit être dit. Donc, tout d'abord, j'ai eu une belle et longue carrière dans la fonction publique avec de bons collègues et ça reste à jamais. Et j'ai eu quelques bons moments. Cependant, ce que j'ai réalisé, c'est que la fonction publique ne permet pas à quelqu'un de créatif, de faire valoir ses véritables apports pour une raison toute simple. Puis là, je ne fais pas référence au renseignement, mais au monde de l'éducation, où j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'éducation pour la formation des enquêteurs ou la sûreté aéroportuaire, etc. Un programme universitaire ou un programme collégial, c'est un programme. Mais la vie n'est pas un programme. Les situations évoluent à chaque jour. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en voulant ajuster, rendre sur mesure chaque action d'enseignement au cours de ma carrière, ben, je me heurtais à un mur, à un blindage qui était le programme écrit il y a 5 ans, il y a 6 ans, voire il y a 10 ans. Et je pense qu'il y a ce que je vous dis est plus particulier et plus spécifique au monde de l'enseignement. Il y a une contradiction dans les termes et c'est plus vrai, je crois, chez nous au Canada ou en France, et c'est peut-être moins vrai en Suisse, parce que vous avez une tradition de l'apprentissage, même en universitaire, une connexion plus proche avec l'entreprise, mais il y a une contradiction entre enseigner à partir de programmes déjà préformatés et comprendre l'évolution du monde qui, vous le savez Armand, change à chaque jour à très grande vitesse, notamment avec l'intelligence artificielle.
Effectivement. Intelligence artificielle pour lesquelles on met des sommes colossales pour développer cet artifice, c'est un artifice. Et par contre, pour développer l'intelligence humaine, il n'y a pas beaucoup de monde au portillon.
Alors, est-ce que ça, c'est une question ou une affirmation de votre part?
C'est une affirmation. C'est qu'ils vont mettre beaucoup d'argent pour aller développer. Mais oui. Pratiquement rien pour que l'homme, la femme, en tant que telle, développe leur intelligence.
Ben, je vais vous faire rarement un retour d'expérience, puis c'est un très bon débat qu'on peut avoir également à ce sujet. Nous utilisons l'intelligence artificielle comme outil dans nos travaux d'enquête, dans nos recherches, et l'intelligence artificielle nous produit des rapports d'analyse grâce à la lecture du langage naturel. Cependant, je n'utilise pas une virgule, pas un mot des rapports produits par nos deux IA. Nos IA, je les utilise pour être productifs. En fait, j'ai fait le calcul, 240 fois plus productif, puisque ce que l'IA collecte en 10 minutes, moi, ça me prenait 5 jours temps plein. Donc, c'est 240 fois plus productif. Est-ce que c'est un artifice? Eh bien, ça me donne le confort, le loisir, le confort mental, le confort même dans mon horaire, pour faire des rapports d'analyse bien plus humains, bien plus travaillés qu'auparavant. Et tout est une question d'usage, puisque l'intelligence artificielle va être un artifice, c'est vrai, si on décide que c'est un artifice qui nous remplace par paresse. Si par contre, on décide que l'IA est un outil pour nous obliger à être plus des artisans, à être plus dédiés, être plus en capacité de développer nos propres capacités de réflexion, dans ce cas, ce n'est pas un artifice, c'est un compagnon de route. Si je veux le mot masculin, c'est un compagnon de route. Alors, en fait, comme toute chose dans la vie, les choses ont la valeur qu'on veut bien leur donner. Je vais revenir à l'histoire, parce que c'est une de mes passions. Je pense que quand l'imprimerie est apparue à la fin du 15e siècle, il y a eu peut-être des mouvements de panique chez les moines qui recopiaient depuis des siècles les manuscrits à la main. Leur métier allait disparaître peut-être. Ils s'en sont remis depuis, ils font du fromage ou de l'alcool ou font de la méditation ou retournent à leurs travaux théologiques. Mais l'écriture a permis la diffusion du savoir avec risque et inconvénient, puisque l'imprimerie, chez Gutenberg lui-même, dans son propre atelier, a permis autant de diffuser la Bible que de la poésie, que des manuels scolaires, que des pamphlets politiques à l'époque qui étaient anti-musulmans ou antisémites, je ne me souviens plus. Donc, comme chaque outil, tous les usages sont possibles, mais il faut y aller avec confiance pour pouvoir en prendre le contrôle et se développer avec. Donc, c'est une question d'usage. Je comprends votre remarque de tantôt, mais en même temps, si on décide de le faire autrement, ça peut être un excellent outil de développement de nos propres capacités de réflexion et d'intelligence, même si ça ne va pas bien. Les deepfakes ou les préoccupations par rapport à la désinformation nous obligent à être plus prudents, nous obligent à être plus discernants, faire preuve davantage de discernement qu'auparavant. Mmh. En cela, ça développe nos propres neurones.
Mmh. Très bien. Maintenant, j'aimerais que l'on retourne à la façon dont l'entretien est mené et j'aimerais vous demander s'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée.
Ben, quitte à retourner l'entrevue, Armand, on va la retourner à fond. Armand, comment vois-tu l'avenir du journalisme?
Alors, personnellement, je suis spécialisé donc dans ce qui est podcast. Je ne suis pas un journaliste pur et dur, loin de là. Ma spécialité, c'est de faire des podcasts, faire des blogs. Et de ce côté-là, le créneau ne fait qu'augmenter de façon exponentielle année après année. Il y a énormément de nouveaux podcasts qui se créent jour après jour. Déjà en Suisse, c'était, il y a quelques années en arrière, c'était perçu comme une activité nouvelle, une activité un peu, comment dire, farfelue, si on peut utiliser ce terme. Et maintenant, tout le monde écoute des podcasts le matin, dans la voiture, à la maison, et sur des sujets qui intéressent véritablement les personnes. C'est ça qui est bien, parce qu'on trouve véritablement une personne spécialisée dans quelque chose qui nous intéresse. Une ou plusieurs personnes.
Hein. Parfait. Ben, tu réponds oui à... Parce que, donc, moi, ma compréhension, c'est que le média podcast, aussi bien pour les entrepreneurs ou les professionnels comme moi que vous rencontrez aujourd'hui, c'est le média qui peut prendre le dessus à cause de son format, à cause de la manière dont c'est conçu pour aller finalement compléter l'offre médiatique habituelle qui peut-être va arriver à terme un jour. Alors, je vous ai posé la question parce que, oui, l'avenir du journalisme m'intrigue beaucoup, puis je vais vous dire pourquoi. On va parler d'enquête de réputation numérique. Parmi nos activités, grâce à l'IA, depuis 2-3 ans maintenant, nos clients nous demandent de faire des analyses de réputation négative sur des gens d'affaires, des futurs associés, des partenaires d'affaires, des employés à des postes critiques ou sensibles, d'investisseurs, etc. Quand on fait ce travail exhaustif, grâce à l'IA, d'analyse de réputation numérique, j'en apprends davantage sur le monde des médias d'aujourd'hui, en 2024, que j'en apprends même sur mes propres cibles. Et moi, j'ai vraiment des interrogations, des préoccupations sur comment le journalisme conventionnel va évoluer face aux autres médias alternatifs. C'est des choses qui m'intriguent beaucoup, parce que je vois ça dans mes rapports d'enquête de réputation, le danger que les médias traditionnels soient trop proches de la rapidité, comme les médias alternatifs, hein, comme les réseaux sociaux, et perdent leur qualité supérieure d'analyse et de recul. Donc, je suis intéressé toujours par ces réflexions sur l'avenir du journalisme. Et dans nos rapports donc de réputation numérique sur les gens d'affaires, on collecte beaucoup de reportages, de rumeurs, de nouvelles qui viennent sur des gens d'affaires connus. Et j'avoue que je suis un petit peu inquiet, pas par l'intelligence artificielle, pas par la désinformation, mais sur le fait que tous ensemble, on est poussé à de la rapidité dans les analyses, les reportages, les comptes rendus et les opinions que l'on émet sur les gens.
Très bien. Alors, je pense que l'on va terminer sur ces bonnes paroles. Par contre, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur vos activités, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît, Philippe?
Oui, alors j'aime beaucoup le réseau LinkedIn, qui est mon seul réseau. Donc, Philippe Chevalier, la compagnie s'appelle Saxe, S-A-R-X, Saxe Inc. Et je profite pour dire rapidement que Saxe, en grec ancien, veut dire être dédié, être dévoué corps et âme. Notre logo, c'est l'hiéroglyphe égyptien de vérité, donc Saxe Inc. Philippe Chevalier sur LinkedIn. Et notre site web est saxe.net, S-A-R-X, donc .net. Nous sommes une agence canadienne, mais on intervient partout sur la planète en cyber-enquête, donc fraude, cyber-enquête d'espionnage industriel ou de prévention, également de formation sur ces points précis, la prévention de l'espionnage industriel ou de la déloyauté en entreprise.
Très, très bien. Écoutez, Philippe, un tout grand merci d'avoir participé à That Special Moment Podcast, d'avoir partager donc votre expérience de vie. Je pense que ça donnera matière à réflexion à plusieurs des personnes qui nous entendent et peut-être leur faire prendre conscience qu'il faut avoir le secret du culte et le culte du secret.
Merci beaucoup, Armand, pour tes questions qui m'ont pris par surprise à quelques moments, mais j'étais prêt parce que je contrôle ma peur, comme on en a parlé. Et on va s'échanger des listes de proverbes, c'est certain.
Voilà, très bien. À bientôt et encore une fois, un grand merci.
Merci.